Seigneur, tu as les paroles de la vie. Toi seul peux nous communiquer ce qui est nécessaire pour nous. Nous avons besoin, Seigneur, encore et encore, d'entendre ta parole, de la vivre. Merci de pouvoir encore ce matin nous permettre de pouvoir en parler, pouvoir méditer ensemble ta parole. Ce privilège pour lequel nous ne cesserons pas de te remercier. Merci Seigneur de nous conduire ce matin par ton esprit. Amen. Alors nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 14, du verset 13 au verset 21. Ceux qui ont fait l'école de dimanche vont me dire, mais Gaston, là t'exagères un peu. C'est une histoire qui se raconte à l'école de dimanche. Pourquoi est-ce que tu viens nous le raconter? Mais c'est une histoire dans laquelle ça me permet de répondre peut-être à la question à laquelle je pensais cette année. Comment avancer en 2015? Comment répondre à ce défi majeur que nous nous sommes fixés dans l'Église en 2015? Vous savez que nous nous sommes donnés comme défi dans l'Église de ne pas avoir simplement une église qui œuvre comme un bon groupe, avec des gens qui sont chouettes, qui s'entendent très bien, avec lesquels tout se passe bien, on mange ensemble, on fait des trucs, on prie, etc. Mais l'église, nous sommes donnés aussi le défi de dire l'église, c'est pas ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi le lieu à partir duquel nous allons vers le monde. Le lieu à partir duquel nous nous formons pour atteindre. L'Église est un moyen de grâce pour atteindre le monde perdu. Nous sommes des pierres vivantes qui offrons à Dieu un sacrifice à l'intérieur de l'Église. Mais nous sommes aussi la lumière du monde, la vitrine pour le monde. Et voilà, comment atteindre ce défi majeur qui est d'atteindre les gens, d'évangéliser, de toucher les autres, de pouvoir amener des gens dans l'église. Avez-vous déjà voyagé en voiture la nuit dans un pays que vous ne connaissez pas? Oui. Avez-vous déjà voyagé la nuit dans une voiture, dans un pays que vous ne connaissez pas, avec un GPS qui ne vous obéit plus? Moi, j'ai vécu cette expérience. Nous allions rendre visite à mon frère à Munich, 640 kilomètres, jusqu'au Luxembourg, tout va bien. Tout d'un coup, il commence à faire nuit, et donc quand on rentre en Allemagne, tout fait nuit. L'Allemagne, c'est pas vraiment écrit en français là-bas. Et quand il fait nuit, c'est déjà dur. On s'en tient à son GPS. Tout d'un coup, vous arrivez sur une autoroute qui est fermée. Fermée pour cause des travaux. Bon, le GPS, il est gentil, n'est-ce pas? On se dit, on va prendre un autre chemin. Le GPS va sûrement nous indiquer. Mais non, le GPS, lui, vous dit, tournez pour revenir sur cette autoroute-là. Faites le tour une fois. Deux fois, pour ça vous dire, peut-être ce serait mieux de rentrer chez nous. Et on entend déjà les enfants, non. Parce que, on n'est pas le chemin ici. Qu'est-ce qui peut déterminer des gens à pouvoir continuer? Qu'est-ce qui peut nous déterminer à aller encore à continuer? Eh bien, la réponse est notre objectif. On a un objectif. On veut aller là-bas. On ne sait pas y aller, mais on veut aller là-bas. C'est tout. Et donc, on a chipoté. Je ne sais pas par où on est sorti, puisque moi, je ne sais pas très bien lire l'allemand et encore moins connaître les routes de l'Allemagne. Je sais qu'on est passé par des villages et machins comme ça. En tout cas, on a perdu à peu près une heure ou deux heures sur la route en train de chercher la route. Bref, on s'est retrouvé tout d'un coup sur la bonne route. Et on a pu poursuivre notre route. Comment atteindre des objectifs, comment réussir ensemble. Il faut de la détermination. Il faut un objectif, bien sûr, mais il faut s'en tenir à cet objectif, il faut se battre avec ça. Il faut continuer. Mais à travers ce texte, à travers cette histoire que nous allons lire maintenant, vous allez voir que la détermination ne suffit pas. Il faut aussi des motivations, des raisons pour les, qui peuvent nous permettre de pouvoir réussir le chemin, le défi. Alors, on va lire le texte. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il leur dit « Apportez-le-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de petits morceaux, pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Une histoire qu'on connaît, une histoire que tous les 4 évangiles racontent, et chacune avec des détails intéressants, chacune d'une manière différente, mais chaque fois c'est la même histoire qui tient donc la route. Cette histoire nous permet de pouvoir réfléchir à 3 choses qui peuvent nous permettre de réussir notre défi. 3 choses qui peuvent nous permettre d'atteindre notre objectif, qui est, justement, comme dans cette histoire, d'atteindre des foules des âmes perdues, des foules des âmes assoiffées de justice, de vérité, d'amour, des gens assoiffés de Dieu, sans le savoir, sans parfois pouvoir le comprendre. Comment atteindre les foules malgré les ténèbres qui environnent notre monde, malgré l'opposition, malgré même le diable, malgré nos propres raisonnements, nos propres peurs, notre chair? Comment atteindre les autres? Je ne vais pas revenir sur cette histoire parce que, bon, vous la connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la relire. Si j'étais à l'école de dimanche, j'étais avec les jeunes ou les ados, je la raconterais différemment. Mais j'aimerais tirer de cette histoire 3 enseignements, 3 choses qui peuvent nous aider à réussir ensemble. Mais peut-être avant, on voit que dans cette histoire, au verset 13, Jésus vient d'apprendre que Jean-Baptiste, son cousin, a été décapité par Hérode. Une demande insensée d'une petite fille qui dit, qui danse devant son père adoptif, et le père adoptif admire la danse, la petite, et dit, allez, demande-moi tout ce que tu veux, même une moitié de mon royaume, je te le donne. Et la maman de la petite qui dit, souffle à l'oreille à la petite en disant, demande la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était à l'époque emprisonné par le roi Hérode, justement. Et le roi Hérode, malgré qu'il n'avait pas envie de faire ça, mais se tenant à l'engagement qu'il a pris avec cet enfant, il va faire décapiter Hérode et va amener la tête d'Hérode devant la fille. Voilà notre Jésus qui apprend cette triste nouvelle, qui voit, qui entend que les disciples d'Hérode, de Jean-Baptiste sont allés le chercher son corps pour aller l'enterrer dignement. Jésus se rend compte qu'il y a là des problèmes avec Hérode. Par sécurité, par prudence, parce que son temps n'est pas encore venu, il préfère se retirer de cet endroit-là. Nous sommes en Galilée et il se retire. Il va dans les lieux déserts. Il est porté par cette tristesse. Par cette tristesse, puisque Jean-Baptiste est quand même un membre de sa famille. Et c'est dans ce désert, dans ce lieu désert où il s'est retiré, qu'il est surpris de voir que toute une foule l'y attend. Des gens qui ont entendu dire qu'il sera par là et qui ont commencé à marcher à pied jusque-là pour le retrouver. Que dit le texte? Verset 14. Tu vas devoir avoir ça souvent ouvert. Hein? Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Ça, c'est la première chose. La compassion. Comment réussir le défi de gagner des âmes cette année en 2015, waouh, je décolle pas de 2014. Hein. Pour réussir ce défi, demandons à Dieu de nous donner la compassion des âmes. Jésus a compassion. Il est ému de compassion. Ici, le mot ému de compassion fait littéralement allusion à l'idée qu'il est touché au plus profond de ses entrailles. Comme une maman quand on frappe son enfant. Je crois que les mamans qui sont ici peuvent le témoigner. Elles ne peuvent pas supporter que leurs enfants souffrent. La souffrance d'un enfant pour une mère, ça le prend dans les entrailles. Jésus est ému de compassion. Il est touché dans ses entrailles, devant cette foule perdue, devant ces âmes sans guide, sans Dieu. Et rien à faire. Parce qu'il est ému de compassion, rien à faire, il se met à répondre à leurs demandes. Il se met à les guérir. La compassion, c'est plus qu'un sentiment. C'est véritablement cet élan qui nous emmène non seulement à être touché par la situation difficile par laquelle passe quelqu'un, par la souffrance de l'autre. Ça nous amène tellement à être touché par sa souffrance qu'on ne peut pas rester insensible et croiser les bras. On se sent porté à résoudre le problème, à agir. On ne peut pas rester comme ça, insensible, indifférent. C'est une pitié profonde face à la situation malheureuse des autres. Les gens d'aujourd'hui n'ont pas de compassion. Notre société nous encourage à ne pas avoir de la compassion. Oui, on est scandalisé, on est indigné. Quand tu regardes à la télé, que tu vois comment on maltraite ces petits-enfants là, oui, tu verses une larme, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content, tu n'es pas pour ça. Mais ce n'est pas de la compassion. C'est juste un sentiment de contestation, de rejet. C'est juste un rejet de ce qui se passe. La compassion, c'est lorsque je m'engage aussi à agir, à faire quelque chose pour que les choses changent par rapport à ça. Souvent, Jésus était pris de grande compassion pour les pécheurs. Dans le texte biblique, on voit souvent que Jésus a toujours été porté par la souffrance des autres. Vous vous souvenez qu'on lui reprochait même de vivre avec les femmes de mauvaise vie, enfin, de laisser les femmes de mauvaise vie le fréquenter, de laisser des pêcheurs, des voleurs le fréquenter. Il avait même dans sa compagnie un homme de triste réputation qui était avec lui et qui était dans son entourage parce que Jésus était plein de compassion. À l'instar de Jésus, première chose, nous sommes invités à avoir de la compassion pour les gens perdus, pour les gens qui vivent sans Jésus. Ils sont peut-être riches matériellement, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut peut-être matériellement, mais ils sont malheureux spirituellement. À cause de cela, ils ne savent pas souvent profiter de leur richesse. Ils vivent dans la peur, dans l'insécurité, dans l'incertitude, dans la solitude. Ils vivent dans les querelles, dans les conflits, dans des problèmes parfois terribles. La compassion, c'était ce sentiment qui motivait Jésus, qui motivait les actes de Jésus. Pour cette année 2014, demandons à Dieu d'avoir de la compassion, d'avoir de la pitié pour les gens qui sont perdus et d'agir pour les gagner, pour en parler, pour discuter avec eux, aller vers eux, ne pas les laisser seuls dans leur souffrance. Nous allons poursuivre pour découvrir la deuxième chose. Au verset 15, on voit que il commence là une autre histoire. Après avoir été touché, voilà qu'il fait tout un boulot, il écoute les gens, il prie pour eux, il guérit, etc., etc. Et la foule est toujours là. Voilà que le soir arrive. C'est un lieu pas très sûr. C'est un coin, on dirait pas mal famé, mais enfin, pas très loin de ville, etc. C'est un endroit pas très très bien. Les disciples raisonnent, ils se disent, mais écoute, peut-être qu'il serait mieux de pouvoir simplement renvoyer cette foule, qu'elle aille un peu manger, je sais pas moi, qu'elle s'en aille, quoi. Hein? Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Nous aussi, on raisonnerait comme ça. On raisonnerait comme ça. Mais là, Jésus surprend par sa réponse au verset 16. Il leur dit non, on ne les renvoie pas. On ne les renvoie pas. Mais vous devez leur donner à manger. Alors là, les disciples, un peu surpris, parce que, attends, nous n'avons pas beaucoup de choses ici. Dans les autres évangiles, hein, pas l'évangile de Matthieu, mais dans les autres évangiles, il est clairement montré qu'ils étaient vraiment dans le doute. Hein. Ils se disaient, pour eux, la solution n'était pas de pouvoir intervenir pour que ces gens mangent. La solution était plutôt qu'on renvoie cette foule. C'est ce que nous, humains, nous faisons souvent, n'est-ce pas? Beaucoup de situations que nous rencontrons se présentent souvent pour nous comme un problème, mais jamais comme une occasion de faire le bien ou même de donner la gloire à Dieu. Beaucoup de choses que nous vivons, nous préférons résoudre le problème en nous débarrassant du problème plutôt qu'en y faisant face. Jésus rappelle à ses disciples en quelque sorte, mais c'est à vous qu'incombe la tâche de répondre aux problèmes de ces gens. Il ne suffit pas de les renvoyer, mais répondez à leur détresse. J'ai voulu qu'on compare le texte ici avec Jean chapitre 6, et nous allons voir qu'il y a là exactement le même contexte que nous avons lu, mais vous allez voir un peu le doute. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Et alors, c'est comme ça que André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant des gens ?» Problème. On regarde plus à la dimension du problème qu'à la solution. Vous savez, c'est comme ça qu'on travaille, nous les hommes. Je donne des exemples. Évangéliser. Si je dis, nous allons évangéliser, tout le monde dit, oh, évangéliser égale sortir dans le froid, égale aller parler à des inconnus, égale avoir des tracts, parler de Dieu. Mais moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quoi? Moi, je ne connais rien de la Bible. Égale une série de problèmes à l'infini, parce qu'évangéliser, c'est un problème! C'est comme ça qu'on fonctionne, n'est-ce pas, nous les hommes? Accueillir du monde dans l'église, oh mon Dieu, vous, quoi? On a combien de places ici? Et on va les mettre où? Et on va faire quoi avec eux? Accueillir des gens qui n'ont pas les mêmes têtes que nous, c'est encore pire. Quoi? Ce clochard? Dans notre église? Il pue? Quoi? Non! Voyez-vous, ça, l'attitude des disciples, c'est la même chose que nous. Nous sommes toujours enclins à trouver des problèmes et pas des solutions. Mais Jésus, à travers son questionnement, il sait ce qu'il dit. Il sait pourquoi il le dit. Il sait que la solution, ce n'est pas les disciples. Non, il le sait. Effectivement, il sait que les disciples ne pourront jamais répondre à toute la problématique. C'est lui qui va y répondre. Et quelque part, l'attitude de Jésus, c'est de dire, mais est-ce que je suis là avec vous? Si je suis avec vous, pourquoi voyez-vous le problème et pas la solution que moi, je peux vous apporter? Vous voyez la nuance? Là où l'homme voit des solutions, là où l'homme voit des problèmes, il y a les solutions que Christ peut apporter. Et Jésus veut glorifier Dieu. Et c'est ça la deuxième chose que je voudrais partager cette année. Voyez-vous, lorsque ces hommes, ces disciples vont dire, quand Jésus va dire, mais écoutez, trouvez une solution pour eux, hein. Et là, ils vont investiguer, vont découvrir qu'il y a quand même un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. À ce moment-là, ils vont apporter ces 2 poissons. Même si ils disent, mais c'est rien par rapport à la foule, mais ils vont l'apporter, le peu qu'ils ont trouvé. Et le peu qu'ils ont trouvé, c'est ça qui va permettre que Jésus fasse le miracle. Première chose, la compassion. Deuxième chose, c'est le fait d'apporter le peu que nous avons. Dieu ne nous demande pas des gros moyens. Il ne demande pas que nous apportions des choses extraordinaires. Il nous demande d'apporter le peu que nous avons, nos peu de moyens. Et avec le peu de moyens, Dieu peut faire des grandes choses. Dieu peut agir puissamment. Osez donner le peu que nous avons. C'est ça le défi. C'est ça la deuxième chose qui peut nous aider à aller de l'avant. Je suis petit. Je ne connais pas grand-chose. Je ne sais pas parler de Dieu parce que je ne connais pas beaucoup de choses. Mais le peu que tu as, c'est ça que Dieu demande. Des petites choses. Notre foi, même si elle est petite, c'est ça que Dieu demande. Notre engagement, même si elle est petite, elle est petite, mais c'est ça que Dieu demande. Notre temps, un peu de temps pour le Seigneur. Pas beaucoup, mais c'est ça que Dieu demande. Notre fidélité, on ne demande pas d'être tous les jours, 24 heures sur 24, mais d'être ponctuel, fidèle à quelque chose. Je commence un projet avec le Seigneur, j'y reste. Je m'y maintiens jusqu'au bout. Évangélisation? La prière communautaire, je sais pas moi, le groupe des dames ou peu importe, j'y suis régulier, je reste engagé, fidèle. C'est ça que Dieu demande. Notre contribution matérielle, les petites choses qu'on peut apporter, vous croyez que c'est petit, mais c'est grand aux yeux de Dieu. Souvenez-vous de cette veuve qui va donner les 2 sous qu'elle avait et Jésus va regarder et dire, cette dame, elle a donné tout son cœur. Mes amis, que cette année, nous donnions comme objectif de donner un peu à Dieu. Le peu que nous sommes, le peu que nous avons. Et le miracle est possible parce que c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un Dieu tout puissant. Troisième chose. Vous avez remarqué que lorsque les disciples vont apporter. Tu peux revenir sur le texte de Matthieu. Lorsque les disciples vont apporter, donc c'est à partir du verset 17-18, voilà. Eh bien, Jésus leur dit, verset 18, apportez-les-moi. Et puis, il les fit asseoir sur l'herbe. Et donc, Jésus va donner des instructions. Et les disciples vont obéir aux instructions de Jésus. Troisième chose, l'obéissance. Je sais que l'obéissance revient souvent. Ça fait partie des conditions sine qua non dans la marche chrétienne. Apprendre à obéir. C'est peut-être ça la chose la plus difficile dans notre monde aujourd'hui parce que les gens d'aujourd'hui sont rebelles par nature. Dès qu'on leur demande de penser A, ils pensent B. Quand on leur dit marche droit, ils marchent zigzag. Quand on leur dit on ne fait rien, on croise les bras, alors ils marchent droit. Ou alors quand tu me dis, bon, que je ne fais plus rien, moi, je dis plus rien, ah, au fait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Toujours à contre-temps. Toujours à contre-temps. C'est l'esprit de la rébellion. C'est le naturel de l'homme pécheur. C'est ça qui fait que, à la fin des temps, les choses seront simples. Ce sera simple. Ceux qui obéissent, ils seront ceux qui obéissent. Et ceux qui désobéissent se renforceront dans la désobéissance et la rébellion. C'est tout. Apprenons et supplions Dieu à apprendre à obéir. Parce que notre monde ne nous aide pas à obéir. Croyez-moi, notre monde fonctionne avec un mode de fonctionnement où on apprend la contestation, la protestation, la revendication, la manifestation, enfin je cherche tous les mots qui rentrent dans ça. L'obéissance. L'obéissance est un moyen efficace. À quoi est-ce que les disciples obéissent ici? Ils obéissent à la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être obéissant à l'égard de n'importe quoi. Il faut être obéissant à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. À la parole de Dieu. Ils font ce que Dieu leur demande. Ils font ce que Jésus leur demande. Et parce qu'ils font ce que Jésus leur demande, alors le miracle est possible. Nous cherchons beaucoup le miracle dans nos vies. Nous voulons tellement que les choses bougent dans nos vies. Nous voulons tellement avoir des preuves que Dieu est actif dans nos vies. Mais un des schémas, c'est obéir. Obéir à Dieu. Avez-vous remarqué une chose? Moi, c'est un petit mot qui m'a vraiment, que j'ai trouvé très intéressant. Verset 19. Okay. Il lève les yeux, il rend grâce, puis il rompt les pains et les donne aux disciples. Et les disciples distribuent. Ce n'est pas nous les faiseurs de miracles. Le miracle ne vient pas de nous. Le miracle vient de Dieu et nous ne sommes que des simples distributeurs de miracles. Chacun doit savoir se situer à sa place. Mais pour que le miracle soit possible, il faut que je puisse avoir la compassion des âmes. Que je ne regarde plus ces pécheurs comme étant des gens qui vont aller en enfer, point barre, tant pis pour eux. Je dois pouvoir dire, ces gens qui vont être perdus, ça me concerne quelque part. Peut-être que je ne pourrai pas les atteindre comme ça directement. Peut-être c'est difficile de parler avec eux. Peut-être qu'ils sont loin de moi, etc. Mais je peux prier, quoi. Je peux persévérer dans la prière pour eux, pour leur salut, spécifiquement. Dans nos familles. Moi, dans ma propre famille, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. Je me suis donné comme tâche que chaque fois que je suis en contact avec un de mes frères, une de mes sœurs, mes cousins, etc., qui ne connaissent pas le Seigneur, rien à faire, boum. Et j'étais étonné. J'ai commencé l'expérience avec une de mes sœurs, j'étais étonné de tout ce qu'elle m'a dit. Les gens sont vraiment dans la détresse. Les gens ont besoin de Dieu. Deuxième chose, n'attendons pas d'être riches, d'être forts, d'être grands, d'avoir beaucoup de choses. Donnons le peu que nous avons. Avec le peu que nous sommes, présentons ça à Dieu. Que Dieu puisse agir. Troisième chose, soyons prêts à obéir. À obéir au Seigneur, à sa parole. Pas à discuter, pas à contester, pas à commencer à demander des explications. Vous savez, de nos jours, les gens sont devenus tellement intelligents que je commence à dire, Patty, joue à la musique. Explique-moi, pourquoi tu me demandes ça comme ça? Et c'est parti pour la discussion. Et je dois pouvoir convaincre que oui, il faudrait bien que tu joues à la musique. Ça, c'est comme ça aujourd'hui. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Ouais, tu peux contester avec moi, il n'y a pas de souci. Mais avec Dieu, c'est pas la même chose. C'est le Seigneur, c'est le Maître. C'est celui qui connaît notre passé, notre présent et notre futur. C'est celui qui nous veut du bien. Donc quand il donne un ordre, nous devons exécuter. Alors nous pouvons voir le miracle. Le miracle des âmes qui sont touchées, des gens qui viennent dans l'Église, qui aiment le Seigneur, qui se tournent vers Dieu qui cherchent le salut en Christ, quand ils verront notre compassion, quand ils verront que nous nous donnons tellement au Seigneur, quand ils verront que nous sommes si obéissants à ce Dieu, alors les choses sont possibles. Et ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose. C'est nous, à travers notre motivation, qui amenons le miracle. Mais ce n'est pas nous qui faisons le miracle. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est Jésus qui fait le miracle. Et nous, nous ne sommes que des bénéficiaires de ce miracle-là pour les distribuer aux gens. Soyons vraiment prêts cette année. Vous savez, en Afrique, dans les régions où il tombe peu d'eau, hein, où il y a peu de pluie, c'est toujours très amusant. Quand les petits-enfants voient dehors que les nuages commencent à se resserrer, que le ciel devient gris, les petits-enfants commencent à trépigner, à sauter. Vous savez pourquoi? Comme le sol, comme la pluie est rare, eh bien, ils vont vite rentrer chez eux, ils vont mettre du savon sur eux, sur tout le corps. Ils vont sortir pour que, quand la pluie viendra, ils vont se laver. Mais il y a d'autres qui sont plus malins. Ils vont faire ça, mais ils vont amener une bassine ou une marmite, une casserole ou une bassine, peu importe, pour qu'il y ait de l'eau aussi dans la bassine, pour quelques jours, pour cuire, pour préparer, etc. Voyez-vous, la démarche de la foi, c'est la même chose. Je viens devant Dieu avec une petite foi pour obtenir peu de choses. Une grande foi pour obtenir des grandes choses. C'est moi qui détermine la mesure de ce que je vais recevoir. Vous comprenez? Si je dis, oh Seigneur, je vais juste ça, eh bien je vais avoir juste ça. Oh Seigneur, je veux. Et le Seigneur va donner. Alors, exerçons notre foi à désirer véritablement des grandes choses pour Dieu. Bonne année encore une fois de plus. Que le Seigneur nous accompagne, nous aide à marcher dans ses voies. Pour ma part, je vous remercie parce que vous m'avez aimé. Vous avez vécu avec moi, vous avez partagé des bons moments avec moi. Merci beaucoup pour tout ce que nous avons vécu ensemble et merci aussi pour votre amitié, votre fidélité, votre amour, votre engagement pour le Seigneur. C'est chouette, c'est encourageant de savoir que quand on vient, on a quelques visages à coup sûr qui seront là. On ne va pas me laisser tomber tout seul dans ma chair ici. Et ils sont où? Des chaises vides. Non, c'est qu'il y a des gens qui sont là, des gens qui viennent pour entendre, pour vivre de cette parole. C'est chouette. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous a franchis. Seigneur, accorde-nous ta grâce de marcher dans ta parole. Aide-nous à nous remplir de cette compassion nécessaire pour que nous puissions regarder les âmes perdues, non pas comme des gens qui sont perdus et tant pis pour eux, mais comme des gens que nous devons vers lesquels nous devons aller pour leur montrer Christ. Seigneur, aide-nous à être remplis de ce désir que nous avons quelque chose, même si cette chose est petite, même si elle est insignifiante, mais nous avons quelque chose. Et que toi, tu agis, même avec les petites choses que nous t'apportons, tu sais faire des grands miracles. Aide-nous à être obéissants à ta parole. Quand tu parles, Seigneur, aide-nous à dire Amen et à nous exécuter, Seigneur. Afin que dans ce que nous allons faire cette année, encore et encore, nous voyons des personnes venir dans l'Église. L'Église grandir en nombre et surtout en conversion sincère. Seigneur, nous te le demandons et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.